Immersion. Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
La France est le pays occidental où le bouddhisme connaît le développement le plus spectaculaire, et ce depuis une trentaine d'années. 600 000 personnes, selon des sources de l'Union bouddhiste de France, dont environ 150 000 bouddhistes français de souche. Il est cependant extrêmement difficile d'apprécier réellement l'implantation du bouddhisme dans la population française. Tout près de Lavaur, la présence du monastère bouddhiste de Nalanda et de l'Institut Vajrayogini, institut d'études et de méditation du bouddhisme tibétain, permet cependant, du moins pour notre région, de pouvoir répondre à quelques-unes de ces questions. Combien de Français sont-ils véritablement concernés par cette vague ? Pourquoi le sourire du Bouddha séduit-il de plus en plus nos concitoyens ? Cet engouement est-il une mode passagère ou un phénomène plus durable ? Assistons-nous à l'émergence d'un bouddhisme français ? Le bouddhisme est-il pour eux davantage une philosophie, une voie spirituelle, une religion, un art de vivre ? Début mars, nous étions très chaleureusement accueillis dans un premier temps à l'Institut Vajrayogini, puis quelques jours plus tard au monastère de Nalanda. Pour découvrir le bouddhisme tibétain en Midi-Pyrénées, plusieurs reportages seront nécessaires. Je vous propose de nous retrouver aujourd'hui à l'Institut, où nous attendent Charles, moine de tradition tibétaine, Annabelle, Michael et Adrien, étudiants, salariés ou bénévoles, et Jean-Yves, le directeur du centre. Là, on enlève les chaussures, c'est ouais, ça, c'est
ça. Voilà.
Alors là.
Ça, c'est notre gompa, ça veut dire une salle de méditation.
Oui.
Gompa, c'est le tibétain. Donc c'est là que se passent les enseignements et les retraites, les méditations, etc. Donc on a plusieurs. Là, c'est la principale. Donc c'est décoré avec des tankas qui sont des peintures sur tissu tibétaines qui représentent différents aspects du Bouddha. Voilà, vous avez en bleu, c'est le Bouddha de la médecine, par exemple. Là, je vois, c'est Chenrezi, c'est le Bouddha de la compassion. Et donc là, on est prêt pour la méditation de jeudi soir. Le jeudi soir, il y a une méditation de guidée. Et les gens viennent parfois de Toulouse, même pour le soir, pour une méditation d'une heure et demie. Et puis en fait, mais le gros de l'activité, c'est surtout le week-end. C'est là que les gens viennent pour des enseignements, en général. Donc la principale activité, on va dire dans le bouddhisme, dans notre lignée, c'est les enseignements du Bouddha.
Votre lignée, c'est quoi ?
Alors, la lignée, c'est, on est de l'école Gelugpa.
Gelug. Ce qui veut dire Gelug. En quelques mots,
c'est ça. Gelug, c'est les vertueux en tibétain. Mais en fait, c'est parce que l'enseignement du Bouddha est transmis de maître en disciple, et on peut remonter jusqu'au Bouddha, comme ça.
Donc, c'est vraiment s'inscrire dans une chaîne.
Voilà. Pour être sûr de bien interpréter les écritures. Ouais. Il faut qu'il y ait un maître qui puisse transmettre le sens profond et tous les sens des écritures. Donc c'est pour ça qu'on se fie de maître en disciple. Il faut qu'on ait un maître qualifié, donc par exemple le Dalai Lama. Et ça permet de nous de pas faire de mauvaise compréhension sur ce qui est d'interprétation, exactement. Et donc on peut remonter comme ça. Donc le maître de la lignée Gelug, c'est le Dalai Lama actuellement. Et on peut remonter sa lignée jusqu'au Bouddha. Alors il y a quelle grande lignée au Tibet ? Ça correspond à des traducteurs qui sont venus d'Inde et qui ont apporté des lignées qu'ils avaient reçues d'Inde par des maîtres indiens. Voilà, donc ça s'est passé sur plusieurs siècles, à partir du 8e siècle ou 7e siècle, jusqu'au 11e, 12e siècle. Et ensuite, le bouddhisme a fleuri au Tibet et les lignées, il en est resté quatre grandes lignées, on va dire. Notre dernière, la Gelug, en fait, c'est l'évolution de deux autres lignées.
Et le pourquoi du comment de cette lignée ici, en France et à Lavaur, plus particulièrement.
Alors ça a commencé, toute cette histoire, ça commence dans les années 70, même 60, quand les Tibétains ont fui l'occupation, l'annexion du Tibet par la Chine. maintenant qu'il y a eu, je crois, 100 000 Tibétains qui ont commencé à fuir en 1959.
Une diaspora qui
se sont réfugiés en Inde, accueillis par le gouvernement de Nehru, qui ont donné des terres. Et ils ont commencé au début, c'était des camps de réfugiés, mais c'était des anciennes prisons, en fait. Il y avait même Buxa, c'était là où notre maître a commencé... Là où les disciples occidentaux ont rencontré des maîtres tibétains, ça s'est passé dans une ancienne prison où Gandhi avait été interné. Et donc ces hippies, parce que c'était des hippies qui voyaient à l'époque, hein, on était dans les années 60, c'était beaucoup d'ex-junkies ou de junkies, etc., qui cherchaient le nirvana ou une autre voie, ont rencontré ces lamas, disciples de sa sainteté, et ont été touchés par leurs enseignements et les ont invités à venir en Occident, d'abord en Australie, puis après en Europe, aux États-Unis, etc. Et puis quand ces disciples occidentaux sont rentrés, ils se sont regroupés et ont fondé des centres. Voilà. Donc à l'Institut Vajrayogini, ça a été fondé en 79 par des disciples qui sont une qui était maintenant à Paris, Elisabeth, et puis aussi par Denis.
Alors, vous, votre rencontre avec le bouddhisme.
La rencontre avec le bouddhisme, longue histoire. J'ai rencontré.
Vous cherchiez quelque chose? Vous étiez en attente?
Oui, mais pas du tout une religion. En fait, j'étais. Je vais habiter en Angleterre à l'époque. Et j'avais fait tout ce qu'on m'avait dit. Je m'étais marié à l'église d'ailleurs. Je comprenais pas tout, mais bon, j'avais essayé. Je travaillais dur. Je m'étais marié, donc j'essayais d'avoir une vie et j'étais pas heureux. Il y avait quelque chose qui me manquait, je comprenais pas pourquoi j'avais des hauts et des bas, alors que normalement je devrais avoir que des hauts, quoi.
Il y avait tout pour être heureux.
Il y avait quelque chose qui manquait. J'étais constamment frustré. Je travaillais insatisfait. Je travaillais beaucoup. J'étais dans l'hôtellerie restauration. Et puis vulgairement pété un plomb et j'ai décidé de partir voyager. Donc j'ai fait un tour du monde. Et pendant ce tour du monde, très vite, un ami m'a mis un livre du Dalai Lama dans les mains. Il ne m'a pas mis, mais il m'a dit, tiens, bah, il y en a un. Là, très curieux de tout. En fait, je cherchais un pays parce que j'habitais en Angleterre. Et je ne voulais pas rentrer en France. J'ai dit, je vais peut-être m'installer. C'était au Mexique. Et donc, je cherchais un endroit où je pourrais recommencer quelque chose. Et puis, j'ai ouvert ce livre. J'ai commencé à lire. Et dès les premières lignes, je suis bouddhiste. Je ne savais pas, mais je suis plus toute ma vie. Et en fait, si vous discutez avec beaucoup d'anciens étudiants, on a les mêmes réactions. C'est-à-dire qu'on a toujours été bouddhiste, mais on ne savait pas.
C'est une découverte, une prise de conscience.
Et après, il y a des choses qui me gênaient. Hein. Je voyais la dévotion au gourou, les trucs comme ça. Je dis, oh là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En gourou, en français, c'est très négatif. Alors qu'en anglais, c'est très positif.
Donc, vous a freiné un petit peu?
Ah bah oui, pendant un an, j'avais le temps, j'étais en voyage. Donc j'ai eu le temps de faire des rencontres, etc. Et donc j'ai investigué pendant un an, je suis rentré en Occident, je suis toujours pas sûr, et puis je suis reparti en Inde cette fois, et puis là j'ai pris refuge, c'est-à-dire que je suis devenu officiellement, pour moi, bouddhiste, et j'ai accepté les enseignements du Bouddha, et commencé à pratiquer l'éthique, la méditation, etc.
Annabelle, vous êtes étudiante résidente ici, au centre d'études de Vajrayogini.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc, étudiant résident, ça veut dire que on s'engage à étudier à l'institut et à donner du temps pour le fonctionnement de la communauté. Donc, ça peut être, certains vont être au service, d'autres à la cuisine, moi je suis à la réception. Et on s'engage aussi donc à aller à des enseignements pour étudier le bouddhisme. On doit avoir un certain intérêt pour le dharma. Et on paye donc une participation en fait au logement et au repas.
Comment s'est faite votre découverte du bouddhisme?
Je m'intéresse à la religion depuis toujours, je pense. Moi, je viens d'une famille chrétienne, de par ma mère et de ma grand-mère. Il y a toujours eu ça dans notre famille. Et après, je me suis intéressée à d'autres sortes de spiritualité. Et je suis venue ici grâce à ma mère, en fait, qui avait fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et dont l'un de ses amis connaissait ce lieu et qui m'a dit « je pense que ça, c'est un endroit qui te plairait ». Et elle m'a emmenée ici donc, pour aller d'abord à des enseignements de découverte du bouddhisme. Et ensuite, j'ai voulu faire un séjour de bénévolat et je ne suis pas repartie. Je suis restée là depuis 7 ans maintenant.
Qu'est-ce qui fait que 7 ans plus tard, vous êtes toujours là ?
Déjà, j'ai rencontré mon mari ici et j'ai rencontré aussi des maîtres ici qui m'ont ouvert le cœur, on va dire ça comme ça. J'ai rencontré des êtres avec une compassion hors du commun, en fait. Au début, comme je ne connaissais pas trop les enseignements, ça s'est vraiment transmis par le cœur où j'ai vraiment ressenti un amour incroyable par ces êtres. Et je me suis dit, ça vaut le coup de voir comment ils sont arrivés à cet état-là, comment ils arrivent à avoir un amour comme ça pour tous les êtres. Et donc, je me suis dit que cette sagesse pouvait m'apporter ces réponses-là. Et surtout, j'ai fait un pèlerinage avec Geshe Loden, le Geshe qui est résident ici. Donc, je suis allée visiter des lieux saints en Inde et au Népal. Et j'ai rencontré des maîtres aussi là-bas. Et c'est pareil, il s'est passé quelque chose dans mon esprit qui a changé, qui a basculé, qui m'a montré qu'autre chose était possible, que nous, occidentaux, on a vraiment une vision très matérialiste du monde. Et que là-bas, je sentais que la vie spirituelle était omniprésente et je voulais creuser un petit peu plus et voir qu'est-ce que c'était cette vie spirituelle et comment eux ils la vivaient et comment moi je pouvais la vivre en tant qu'occidentale à ma manière.
Situé à quelques kilomètres de Lavaur, au cœur des collines tarnaises, le château d'Enclosade, ancienne propriété de la famille Toulouse-Lautrec, abrite donc aujourd'hui l'Institut Vajrayogini. Placé sous l'autorité spirituelle de Lamazopa Rinpoche et de Geshe Tenzin Loden, et géré et entretenu par quelques salariés et bénévoles, le centre accueille de très nombreux étudiants venus de la région, mais aussi de diverses parties du monde, et ce, lors de week-ends d'enseignement, de séminaires ou de retraites, comme celle que prêchait ce jour-là le vénérable Charles. La retraite Newness, une pratique intensive de purification des karmas négatifs accumulés par le corps, la parole et l'esprit.
C'est une retraite de 2 jours où là, on la multiplie pendant 7 mois. Donc, c'est la prise de préceptes, de vœux, donc les vœux de base pour l'enseignement que le Bouddha nous donne, c'est basé évidemment sur la non-violence. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, etc. On y inclut le fait, le premier jour, donc, de jeûner le matin et le soir. Et le deuxième jour, c'est un jeûne total, un jeûne sec, c'est-à-dire on ne boit pas, et au plus, on garde le silence. Donc, toutes ces conditions, c'est essayer de vraiment retrouver cet être intérieur, de se concentrer sur cet être intérieur. Donc, la base de cette pratique, elle est reliée à celui qu'on appelle Chanrezi, le Bouddha de la compassion impartiale et inconditionnelle. Et parfois, on dit qu'il est le reflet de notre cœur, de notre essence. Ça, c'est vraiment la base de tout le bouddhisme, c'est que n'importe quel être, fondamentalement, il est bon. Il possède ce trésor d'amour et de compassion et de sagesse. Mais il est, c'est comme on dit, une pépite qui est tombée dans une grosse mare de boue. Et donc, il faut rechercher la pépite. Et pour ça, il faut nettoyer la boue. La boue, c'est tous les aspects, on va dire, pour nous, c'est tous les aspects qui révèlent l'aspect que l'ego nous fait croire, qu'on est séparé, qu'on est le plus important, et que pour le bonheur de soi-même, eh ben, même la souffrance des autres ne compte pas. Ça, c'est grossier, mais on essaie de développer une lucidité de plus en plus vive et clair par rapport à ce comportement. Et dans cette pratique, donc, on essaie de toujours essayer de revenir à l'essence, et toujours, ce qui est donc le plus important pour nous, c'est avec quel état d'esprit, quelle motivation on le fait. Donc, ce qu'on appelle la motivation de l'esprit d'éveil, c'est éveiller notre cœur à ta réalité. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Plutôt que d'être totalement toujours égocentré et être concerné que par sa propre personne, on commence à vraiment laisser et s'éveiller cette conscience à la réalité de l'autre, aux besoins de l'autre, à la souffrance de l'autre. Et ça, en soi, c'est une vraie démarche de guérison, de transformation et d'éveil. Mais on voit en même temps que notre esprit, il est complètement formaté par un grand, grand, grand pouvoir d'habitude. Et on est continuellement habitué à être essentiellement concerné par soi. Donc il faut toujours prendre conscience.
Il y a toujours un travail en permanence.
Voilà, prendre conscience, regarder, ne pas se juger ou s'identifier avec ce qui apparaît à l'esprit. Mais c'est comme quelqu'un qui est malade, il ne va pas s'identifier, enfin on peut l'espérer, à sa maladie et ne rien faire, mais il va, sa maladie lui permet dans un sens à essayer de trouver différents remèdes pour guérir sa maladie, parce qu'il sait que fondamentalement il n'est pas malade.
Tout au long de la journée, nous rencontrons des hommes et des femmes qui ont un jour découvert le bouddhisme, ou plutôt pris conscience qu'ils le portaient en eux depuis longtemps sans le savoir. Et leur façon d'être au monde s'en est trouvée bouleversée. C'est le cas de Michael, qui entretient le parc et les bâtiments. Nous le rejoignons en contrebas du château, près du bassin d'épuration des eaux usées.
C'est un système de phytoépuration. Et là, on est au premier niveau, en fait, c'est des bassins qui sont plantés de roseaux. Et les roseaux aident à filtrer le plus gros. Et en fait, ça fonctionne un peu comme trois bassins de décantation. Et après, ça descend en dessous. Donc là, les roseaux vont commencer à sortir. Il y en a certains qui sortent. Et donc, en dessous de ces bassins, il y a un système de filtration qui récupère l'eau qui a été en grande partie nettoyée, qui nous arrive ici.
Oui.
Et après, qui suit cette petite rivière, en fait, et aussi qui a été plantée de plantes qui participent à la phytoépuration et qui nettoient ce qui reste encore des eaux usées. Et après, on arrive sur le troisième bassin de décantation où l'eau coule à travers les graviers et elle est considérée comme ensuite elle est considérée comme non polluante et elle repart dans les cours d'eau. Donc voilà.
Oui, dans le bouddhisme aussi, il y a ce souci écologique aussi, mais de préservation de la nature.
Oui, c'est super important. Et là, c'est rigolo parce que j'ai une nouvelle façon de jardiner. Avant, je pratiquais déjà le jardinage bio et l'entretien raisonné. Et là, du coup, on n'a pas le droit de tuer d'insectes. Donc, tout ce qui est produits chimiques et insecticides et pesticides, on n'utilise pas. Donc, il y a un gros lâcher-prise sur le fait que, bon, bah, des fois, il y a une plante qui est attaquée. Puis c'est rigolo, ça fait un peu partie de la vie aussi, des fois, quand il nous arrive des soucis. Hein. On essaye de le régler, peut-être que cette plante n'était pas bien ici, peut-être qu'elle avait autre chose. Des fois, il y a des plantes qui sont un peu affaiblies par des racines cassées ou des branches cassées qui se font plus attaquer que d'autres plantes qui sont en pleine santé. Donc c'est plus du contrôle, à vouloir contrôler tout ce qui se passe, que tout aille bien, que tout soit stérile. Et là, c'est vraiment le respect de la nature et on est un peu là, un peu comme un guide du jardin, on essaye de faire que ça aille bien sans se prendre pour le créateur et se dire « Tiens, allez, je vais mettre ci, je vais mettre ça. »
Adrien, le cuisinier du centre, a suivi un cheminement analogue.
Ça remet tout en question, parce qu'au lycée hôtelier, quand on prépare un plat, c'est une viande et un légume. Et c'est souvent la viande qui donne le goût aux légumes, donc on s'applique, on met pas trop l'accent sur la cuisson des légumes. Même si chez Ducasse, j'ai eu la chance d'être à la partie légumes pendant très longtemps et d'apprendre à faire des cuissons parfaites de légumes, quoi. Voilà, c'est peut-être pour ça que c'est bon ici. Donc du coup, au niveau culinaire, il y a un petit peu de recherche à faire et faut apprendre à peut-être un peu plus respecter les légumes ou se creuser un peu plus la cervelle sur comment l'assaisonner. Quoique un bon légume nature, c'est très bon aussi. Donc ça simplifie aussi le travail, des fois. Non, après, ça remet en question le fait que, voilà, on mange de la viande tout le temps et toute la souffrance qui en découle derrière. que pour une noisette de beurre et une goutte de crème dans un plat. On enferme des vaches toute leur vie, on les met en scène de force, on leur prend leurs petits de force aussi, qu'on engraisse, qu'on tue, qu'on découpe, qu'on mange. Enfin voilà, c'est... On prend conscience de ça. J'avais déjà conscience de ça, malgré que j'étais un gros carnivore quand même. Je suis aveyronnais, donc j'aimais déjà la bonne charcuterie et compagnie, mais du bon terroir, plus ou moins bio ou traditionnel et tout ça. Donc j'étais déjà contre l'élevage en batterie, mais de toute façon, c'est sûr qu'on prend conscience qu'on mange trop de viande, de mauvaise qualité, trop de poissons, et que... C'est pas que c'est banni, c'est que nous, on ne sert pas de viande. Après, si les résidents qui sont ici... Ils décident de s'acheter un peu de saucisse sèche ou un peu de pâté et de le manger. C'est sûr qu'on essaye de montrer l'exemple. On ne va pas les jours où il y a initiation au bouddhisme, où il n'y a que des gens nouveaux qui mangent de la viande toute la semaine, qui viennent dans un endroit. Après, on ne va pas mentir aux gens. Je veux dire, moi, je cuisine végétarien. Je mange 95% de viande en moins. Mais de temps en temps, je vais me faire une bonne entrecôte. Quoi. Voilà, je ne suis pas non plus... Je suis pas un boudin encore, quoi. Et encore, je veux dire, je sais même pas si... Donc il y en a qui sont vraiment végétariens, il y en a qui sont végétaliens, il y en a qui font au mieux, ça dépend des jours. Puisque le bouddhisme, quand même, c'est le bouddhisme tibétain, dit Mahayana, ça veut dire pour le bien de tous les êtres, y compris les plus petits. Tous les êtres sensibles dotés de... Tous les êtres sensibles dotés de conscience. N'importe quels êtres qui fuient la souffrance pour aller vers le bonheur. Donc j'essaie de travailler plus avec de la crêpe de soja, plus du tofu, plus les graines germées, voilà, une autre façon.
Il faut être inventif, quoi.
Ouais, en fait, c'est même pas inventif, c'est juste qu'il faut se rééduquer, quoi. Ouais. C'est juste qu'on a été éduqué d'une façon, en croyant que c'était la seule, la vraie, la bonne, voilà. Mais c'est pas vrai. C'est un carnivore qui le dit, hein, donc c'est possible.
Et vous
un ancien carnivore.
Vous occupez des achats aussi, d'acheter les produits
Oui, je fais les commandes.
Est-ce que vous travaillez avec des producteurs locaux ici? Vous me parliez tout à l'heure de produits bio et tout ça.
On a un maraîcher, un producteur de lentilles, un producteur de pois chiches, hein, tous en bio, pas mal de producteurs, deux ou trois producteurs de pommes de terre. On travaille avec un primeur aussi. On essaye de faire travailler un peu tout le monde et je sais que, par exemple, il y avait des jeunes, je suis jeune, mais des gens de mon âge, par exemple, qui se lançaient en boulangerie, ben on a commencé à leur prendre du pain, par exemple. Mais sans non plus laisser tomber l'ancien boulanger à qui on prenait tout le pain, quoi. Il y en a un peu moins pris, mais on a pris aussi aux autres, quoi, histoire de pas... Enfin, après, on fait comme on peut, là. Voilà.
Et globalement, vous avez combien de personnes à nourrir chaque jour? Ça dépend peut-être des périodes.
Par jour, c'est entre 35 et 200.
Matin, midi et soir?
Oui. Le week-end des enseignements, ça peut être... Ça peut monter comme ça. La méditation, ça attire beaucoup de monde, surtout en ce moment.
Qu'est-ce qui se vit en profondeur dans ce centre Vajrayogini, Annabelle?
Il se vit déjà un côté collectif de gérer le quotidien ensemble, ce qui n'est pas évident tous les jours, et surtout d'accueillir du public constamment. Donc ça veut dire qu'on n'est pas là juste pour vivre chacun chez soi et essayer de bien vivre ensemble. Il y a ce côté-là, essayer de bien vivre ensemble et créer de l'harmonie ensemble. Mais aussi, on est là pour vraiment accueillir les gens, qu'ils puissent avoir accès aux enseignements, qu'ils puissent se ressourcer, qu'ils puissent trouver des réponses intérieures. Et donc, ça veut dire qu'on a aussi un travail personnel à faire soi-même sur laisser ses problèmes de côté, ou travailler sur ses problèmes en tout cas, et avoir aussi une démarche d'ouverture du cœur, et aussi de recherche par rapport à la sagesse qui est proposée ici. Et ce qui se vit aussi, c'est que c'est un lieu très mouvant, avec des bénévoles qui vont, qui viennent, des étudiants résidents qui vont, qui viennent, et des étudiants aussi, donc des visiteurs et des étudiants qui vont, qui viennent. Donc c'est très très vivant et très mouvant.
C'est un lieu de vie.
Oui, tout à fait. Il n'y a que l'hiver où c'est un tout petit peu moins vivant, parce qu'on est en période de retraite.
Avec un brassage de population aussi, de nationalités diverses.
De nationalités diverses et de personnalités diverses avec qui il faut composer. Et donc c'est un travail intérieur très 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 riche. Mmh. Parce que des fois, il y a des moments où on n'a pas envie de voir du monde, où on est plus grognon, où on est plus fatigué. Mais il faut composer, il faut continuer à composer avec tout ça. On ne peut pas se mettre dans sa grotte. Donc on compose. Et c'est du coup, c'est très très enrichissant.
Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des gens de la région, de Lavaur ou des alentours, qui viennent le dimanche? Je crois qu'il y en a certains qui viennent se promener dans le parc. Est-ce qu'ils passent par l'accueil, et quel peut être leur ressenti?
Il y a beaucoup de gens qui nous disent que c'est un lieu très apaisant, vraiment un sanctuaire, et qu'ils se sentent toujours très très bien. Ils ont même l'impression qu'en vivant ici, on doit être toujours zen. Souvent on me fait la remarque, mais vous devez être toujours zen, c'est incroyable ce lieu. Et oui, ce côté paisible, apaisant, ressourçant, nourrissant, ça c'est souvent un ressenti qui nous est... Et très convivial aussi, et familial.
Donc vous êtes très bien perçu ici, à Lavaur, vous avez des relations avec la population, les commerçants. Vous êtes chez vous?
Oui. Ah oui, tout à fait. On est intégré avec... en plus, comme il y a le monastère de Nalanda, donc pas loin, les gens sont habitués à avoir des moines, des nonnes. Ils savent aussi que, du coup, il y a beaucoup de végétariens dans le coin. Donc je sais qu'à la pizzeria, par exemple, ils font des pizzas spéciales parce qu'ils savent qu'il y a une communauté bouddhiste autour. Les commerçants, on les connaît, puisque on commande beaucoup de fleurs ou des légumes.
Donc il y a une vie vraiment...
Il y a une vie avec eux qui se tisse. Oui. Et aussi avec le côté interreligieux, puisque on fait aussi des efforts pour que le côté interreligieux soit vraiment maintenu. Oui, tout à fait.
La semaine prochaine, nous poursuivrons plus en profondeur notre immersion au centre Vajrayogini avec notamment Michel, moniale tibétaine.